Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, merci de votre fidélité, à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez tôt le matin à la radio et à tous les autres, de plus en plus nombreux d'ailleurs, qui préfèrent nous écouter en différé, en passant par exemple par l'abonnement au podcast disponible entre autres sur franceculture.fr. Tous les vendredis, on parle de l'actualité de la bande dessinée dans le réveil culturel et généralement on reçoit des dessinateurs et des dessinatrices. Et bien aujourd'hui, c'est un scénariste qui est notre invité, Fabien Velman. Son actu en deux BD très différentes. D'abord, le deuxième opus de L'Herbier Sauvage, avec les dessins de David Prudhomme pour ce deuxième tome qui paraît chez Soleil dans la collection Noctambule, et qui est un recueil des témoignages et des confessions de gens ordinaires à propos de leurs pratiques sexuelles. Et aussi, dans un genre plus classique, Le Dernier Atlas, premier tome d'une trilogie annoncée, édité par Dupuis, qui mêle aventure, histoire de gangsters, robots et humains. Et c'est une totale réussite. Le réveil culturel est réalisé par Vincent Bouchard. Ce matin, à la prise de son, Philippe Mercher. Cette émission a été préparée en compagnie de Corinne Amar et de notre nouvelle stagiaire, Maëlle Ray.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Fabien Velman.
Bonjour Toufik.
Profession scénariste de bande dessinée.
Ça vous épate ?
Ça m'épate d'autant plus que lors du dernier festival d'Angoulême, quand j'ai vu quelques scénaristes se plaindre du fait que ce sont toujours les dessinateurs qui sont proposés au grand prix, qu'on parle de que des dessinateurs et qu'on oublie cet autre métier qui est le métier que vous pratiquez, scénariste, métier qui a été quand même pratiqué par d'illustres artistes comme René Goscinny, Alan Moore, Jean Van Hamme et André Julliard. Je me suis dit, je vais me rattraper, quelle belle occasion, puisque vous êtes très présent en ce moment.
Merci de l'invitation, je prends quand on me propose.
Fabien Velman, comment on devient scénariste de bande dessinée ?
Quand on est mauvais dessinateur. Non, parce qu'on réalise qu'on aime la BD, certes, mais qu'on a plus de facilité à raconter une histoire qu'à la dessiner. Moi, j'ai pas la patience de passer des heures et des heures sur une planche à dessin. J'aurais peut-être pu le faire, mais je préfère amplement raconter des histoires, et qui plus est, le faire avec des gens plus talentueux que moi. Donc on finit par faire ce qu'on sait faire le mieux.
Mais quand on aime, et on sait comme vous, Fabien Velman, raconter des histoires, on pense d'abord au roman, sinon au cinéma, comment on arrive à la bande dessinée ?
J'ai un peu tout essayé, soit en passant, mais le seul endroit où je me suis vraiment accroché, c'était la BD, parce que je crois qu'il y avait un historique dans ma famille d'affection pour la BD, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les gens de la génération de mes parents. Je précise, parce que je vais sans doute l'aborder par la suite, mon père était militaire, mais pourtant c'était un très grand fan de bande dessinée. Et donc j'ai baigné là-dedans quand j'étais petit, un peu comme Obélix, je suis tombé dans la marmite, et je pense que pour moi c'était... l'art parfait, parce que considéré aussi comme mineur. Et donc c'était moins impressionnant de se lancer dans le scénario de bande dessinée que par exemple de se confronter à la concurrence d'un Joyce ou de Dostoïevski ou pour la littérature. Et en BD, j'avais l'impression que c'était faisable.
Et ça change, vous qui avez imaginé écrire aussi bien pour la télévision, le cinéma que la bande dessinée, est-ce que il y a une écriture typiquement destinée à la bande dessinée ?
Oui, parce que c'est quand même beaucoup plus littéraire que ne le serait une écriture audiovisuelle. Je m'en suis rendu compte quand j'ai essayé d'écrire pour la télé ou le cinéma. On peut se permettre des grands dialogues extrêmement écrits. On s'en rend pas forcément compte à la lecture, mais ça peut être très écrit. Si on les lit à voix haute, on se rend compte souvent que les dialogues de BD sont pas forcément faits pour être interprétés. Et en même temps, ça laisse une grande place à l'image, et je suis quelqu'un qui adore l'image. J'ai baigné là-dedans, que ce soit dans mon amour pour le cinéma, mais aussi celui de la belle image ou de la peinture. Donc finalement, cet entre-deux, je le trouve assez génial. Et un autre avantage, c'est que la bande dessinée reste une espèce d'artisanat. Certes industriel, on édite ça à des milliers d'exemplaires, mais par rapport à l'industrie musicale ou cinématographique, on est vraiment des tout petits joueurs en fait. Et donc on peut faire une bande dessinée avec du papier, des crayons, un peu d'imagination, un bon éditeur et c'est parti. On a besoin d'une assez faible économie, ce que permet le roman. Mais le roman avait ce côté très impressionnant à mes yeux et il manquait ce côté visuel que j'adore.
Est-ce qu'un scénariste de bande dessinée travaille à part ou est-ce qu'il travaille tout de suite avec le dessinateur ?
Pour moi, c'est mieux de travailler tout de suite avec le dessinateur si on veut faire du sur-mesure, ce qui est ma philosophie du scénario. Tout le monde ne le pense pas comme ça. J'ai des collègues qui préfèrent écrire dans leur coin. Et puis ensuite, ils trouvent quelqu'un qui va dessiner le scénario. Pour moi, ça n'a de sens que si le dessinateur ou la dessinatrice s'éclate. Parce que c'est quelqu'un qui va passer énormément de temps dessus, je le disais, j'ai pas envie de faire ce métier, parce que je le trouve très dur. Donc quitte à passer un an, voire deux ans sur un album, pour moi, il faut que la personne qui va dessiner puisse vraiment passer un bon moment. Donc, le minimum, la politesse, j'allais dire minimum, c'est quand même de demander à cette personne ce qu'elle a envie ou pas envie de dessiner. Donc, en réalité, c'est presque une co-écriture, même si le dessinateur n'est pas celui qui va écrire le scénario. C'est par des ping-pong qu'on va faire ensemble avant que le scénario va se construire, quelles que soient d'ailleurs les séries sur lesquelles je travaille.
Fabien Wellman, vous êtes né en 1972 à Mont-de-Marsan. Comment avez-vous commencé dans ce métier scénariste de bande dessinée? Avec quelle histoire? Avec quel dessinateur? Avec quel album?
Déjà en me gourant et en faisant une école de commerce, en réalisant que c'était pas ma place, et puis ensuite en toquant à la porte du magazine Spirou. C'est par le magazine que je suis passé, et quelques rencontres importantes, dont celle de Yvan Delporte, qui n'était plus rédacteur en chef de Spirou à l'époque, mais qui était un des grands anciens, qui avait travaillé avec Franquin, qui est quelqu'un avec qui je me suis très bien entendu, et qui m'avait dit « oui, je crois que tu as peut-être le potentiel », ce qui m'a boosté à l'époque, c'était en 96.
Qu'est-ce que vous avez montré à Yvan Delporte pour qu'il vous dise ça ?
Une série qui s'appelait Le Laboratoire Caillou, qui n'est jamais sorti, mais qui a servi à ce que je sois repéré à l'époque. La plupart de mes projets de cette époque n'ont pas marché. Et ensuite, c'est des choses que j'ai écrites spécifiquement pour le magazine Spirou, qui ont commencé à me faire connaître, et en particulier, c'était Green Manor, la série Green Manor, qui était des petites histoires policières, qui ont commencé à me faire connaître avec Denis Baudard au dessin.
Avant de parler de votre actualité, Fabien Wellman, avec deux bandes dessinées très différentes, un roman graphique et une bande dessinée dans le style vraiment bande dessinée, on va y revenir. Parlons un peu du statut de scénariste de bande dessinée. Est-ce que vous êtes tout aussi amer et critique que l'ancienne génération qui dit que depuis la disparition de René Goscinny, depuis que Alan Moore ne veut plus être primé ou apparaître dans un festival, on a tendance à les oublier? Alors parce que je vous pose cette question parce que moi j'ai une idée, hein. Je pense que depuis les années 90, il y a eu cette génération qui est venue avec l'autofiction où les dessinateurs étaient eux-mêmes des scénaristes. Donc déjà la part réservée aux scénaristes a considérablement changé, évolué, en votre défaveur, je dois l'avouer.
Oui, un peu, c'est-à-dire qu'il s'est passé dans la BD, ce qui s'est passé dans le cinéma avec la nouvelle vague, d'ailleurs à une époque on a parlé de nouvelles bandes dessinées, et qu'il n'y a pas eu que du mauvais, bien entendu, au contraire, ça veut dire qu'il y avait toute une génération d'auteurs complets, on montrait qu'on pouvait faire des albums exceptionnels en étant tout seul. Parce que finalement, dans ces cas-là, on est vraiment maître de tout ce qu'on fait, le dessin, la narration, etc. Donc moi, j'ai aucun souci avec ça. Si effectivement, on met de côté le fait qu'il puisse y avoir des binômes qui fonctionnent, c'est un peu dommage. Et c'est vrai qu'il y a assez peu de chances qu'un album primé Angoulême soit un album fait par deux personnes. C'est souvent des auteurs complets qui sont primés. Une fois ça posé, on a énormément plus de reconnaissance dans la bande dessinée que par exemple dans le cinéma. Des auteurs, des scénaristes de bande dessinée sont certes peu connus, mais on en connaît quelques-uns. Citer des scénaristes de cinéma, c'est beaucoup plus dur. Donc je pense que l'amertume, malheureusement, moi je l'ai trouvé encore plus du côté de l'audiovisuel et du cinéma.
Fabien Wellman, commençons à parler un peu de L'Herbier Sauvage. Ça, c'est...
Quelle excellente idée.
Mais ça, c'est votre projet très personnel, parce que vous l'avez lancé il y a quelques années, c'est-à-dire faire raconter à des citoyens que vous rencontrez un peu partout dans le pays, dans la rue, leur faire raconter leur rapport à l'autre à travers la sexualité. Bref, recueillir des confessions pour essayer de parler de la sexualité d'aujourd'hui.
C'est ça. Alors bon, en vrai, je les rencontre pas vraiment dans la rue, parce qu'on pourrait croire que je suis un peu pervers. Enfin, je le suis, mais je pratique pas de cette manière-là.
Non,
mais c'est qu'en fait, effectivement, la manière dont je les présente dans L'Herbier Sauvage, c'est qu'on a l'impression que, bim, je rencontre des gens dans un café, puis ils me parlent de leur vie sexuelle. En fait, avant, il y a souvent eu des échanges par mail, ou des gens que j'ai rencontrés dans des soirées, je leur parle du projet, ils ont le temps d'y réfléchir. Et quand on se voit, ils ont déjà pris leur décision. Et ça m'a permis, quand j'ai lancé le projet il y a une dizaine d'années, petit à petit, comme ça, de collecter toute une série de récits dont je voulais qu'ils soient les plus divers possibles. C'est-à-dire qu'une partie des récits de L'Herbier Sauvage, il y a à peu près 72 récits, certains pourront être qualifiés d'érotiques, pour peu qu'on les trouve excitants, mais ça dépend des lecteurs et des lectrices. D'autres, pour moi, sont drôles, il y en a qui sont tragiques, il y en a qui sont poétiques, parce que la sexualité, c'est tout ça. Enfin, la sexualité, c'est une façon transversale d'aborder
l'être humain.
Mais
votre idée, c'est de parler de la sexualité ou des temps modernes de notre époque, de comment, aujourd'hui, sexuellement, on pratique le sexe aujourd'hui, quoi.
C'est les deux, parce que si on parle de sexualité maintenant, on est obligé de remettre dans un contexte. Là, il y a un récit que je trouve très touchant dans ce deuxième opus. C'est un homme de 68 ans qui m'a contacté après la lecture du premier. Et qui m'a dit, voilà, moi j'ai une histoire qui est douloureuse, mais que j'ai envie de partager avec des lecteurs parce que ma famille ne veut plus me voir. Il a été presque banni en fait de son cercle familial. L'histoire s'appelle Une bouteille à la mer parce que c'est vraiment une bouteille à la mer qu'il envoie aux lecteurs et lectrices. Et il parle en fait de la sexualité dans les années 70, 80, 90 dans son cas. Donc finalement, il y a ça comme il y a des personnes de 18, 19 ans qui m'ont parlé de leur rapport à la sexualité, du rapport à Internet, un autre. Donc en fait, c'est forcément contextualisé dans une époque. Mais au final, moi, ce qui m'importe, c'est que ce soit incarné par une personne qui me raconte son histoire. Je suis pas forcément intéressé par, je sais pas, un type de fétichisme donné ou une nouvelle pratique que la presse ou les journalistes aborderont très bien dans un article. Moi, ce que je veux, c'est que ce soit une histoire, donc quelque chose de raconté par une personne à un instant T.
Et que vous réécrivez, comment ça se passe? Parce que vous êtes auteur de bande dessinée, là, vous recueillez un témoignage. Votre patte, votre écriture, elle apparaît à quel moment dans ce travail?
Je pense qu'elle apparaît presque malgré moi. En fait, alors faut peut-être préciser aux auditeurs, auditrices, que donc c'est pas une bande dessinée, ce sont des récits écrits et illustrés. Pour certains par David Prudhomme, avec énormément de talent d'ailleurs.
Ça c'est pour le tome 2, le premier c'était par une dessinatrice.
C'est ça, Chloé Cruchaudet, ouais. C'était aussi super, je vous engage à acheter les deux, hein, de toute façon, quel beau cadeau. Et il se trouve que, pourquoi j'apparais quand même, c'est que ça se présente sous forme de monologue, mais c'est comme je n'enregistre pas les conversations, je les écris pendant qu'on parle. Il y a un travail de synthèse qui se fait derrière, on pourrait parler même d'un travail de montage comme un documentariste. Et donc, dans ce travail de montage, il y a quand même ma vision de l'histoire qui va apparaître. Et bon, j'ai en tête une espèce de métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est que ces récits, c'est un peu comme des cookies avec des pépites de chocolat. C'est que la pâte, bah, c'est ma façon de raconter l'histoire, et sans doute que quelqu'un qui voit comment j'écris va repérer un certain nombre de tics d'écriture. Les pépites de chocolat, c'est des phrases que j'ai pu noter vraiment in extenso pendant la conversation, que j'aurais pas pu inventer, et qu'on retrouve presque intactes dans le récit. Il y a des phrases qui sont sensationnelles et que j'ai essayé de garder en l'état pour justement que ça ressemble le plus possible aux gens, sans toutefois qu'on puisse les percer à jour, parce que la condition pour que les gens me parlent, c'est que ça reste anonyme.
Pour l'Herbier Sauvage, vous êtes plutôt directeur de casting. C'est vous qui choisissez qui faire parler. C'est vous qui faites ce dosage un peu sociologique entre différentes classes sociales.
J'ai un peu ça aussi, j'ai un peu ce rôle. Hein, parce que c'est vrai qu'au tout début, je me suis simplement contenté, entre guillemets, des gens qui voulaient participer. C'était déjà génial. Puis je me suis rendu compte que si je voulais que ça ressemble à la France d'aujourd'hui, ben il fallait effectivement que j'aille chercher des gens d'âge un peu différent, qui aient suffisamment de personnes homosexuelles, qui aient des gens de catégories sociales différentes. C'est une des choses les plus difficiles.
Et la parité, vous auriez commencé par la parité,
parce qu'elle est tellement présente. Autant de récits d'hommes que de femmes, ça c'était la règle d'or.
C'est l'éditeur ou c'est vous qui choisissez les dessinateurs pour illustrer l'Herbier Sauvage?
C'est un choix commun avec Clotilde Vu, qui est l'éditrice de Noctambule, sachant qu'en général je viens avec des idées, on en parle et ensuite on en parle avec les personnes concernées. On a eu quelques refus, bien sûr, ça peut tout à fait se comprendre. Je pense à Blutch par exemple, à qui je l'avais proposé parce que je suis un grand fan de son dessin, mais qui a eu une réponse tout à fait claire et simple. Il a dit, moi, si c'est pas moi qui écris l'histoire, je me sens pas à l'illustrer. Par contre, David Prudhomme, dont je suis un très très grand fan, on s'était mis d'accord avec Clotilde, je suis allé l'aborder dans un festival et puis très gentiment il a accepté.
Avec quand même ce questionnement, comment parler et représenter la sexualité sans être pour nous, quoi.
Ben c'est super compliqué. D'ailleurs, dans le cas de David, je sais que ça a été même douloureux parce qu'il voulait à la fois en faire son grand livre sur l'érotisme, parce qu'a priori, il va pas refaire un livre sur la sexualité de sitôt. Et en même temps, il partait dans des directions graphiques qui étaient trop vastes, qu'il a fallu qu'on recadre. Et au final, je trouve que le résultat est parfait.
Le réveil culturel. Tufik Hakem.
Fabien Velman, notre invité aujourd'hui est scénariste de bande dessinée. Vous avez à peu près tout fait, hein, je veux dire. Le roman graphique comme L'herbier sauvage, qui est beaucoup plus effectivement des textes illustrés avec une veine sociologique. Vous avez travaillé sur des séries patrimoniales. Vous avez travaillé sur du Spirou.
Mais oui, Spirou et Fantasio.
Et là, vous nous proposez, en compagnie de Gwen de Bonneval, d'Hervé Tancrel et de
Mister Fred Blanchard.
Fred Blanchard, une saga. Moi, je pensais que c'était une saga, mais ça sera qu'une trilogie chez Dupuis, Le Dernier Atlas. Alors là, ça mêle la bande dessinée d'aventure avec des poursuites, avec une intrigue, avec des mafieux, l'histoire de la guerre d'Algérie, très très présente dans cette aventure, ce qui n'empêche pas aussi qu'il y ait des personnages avec leurs failles, et c'est vraiment très réussi. Ça s'appelle Le Dernier Atlas. Je sais même pas s'il faut donner la signification de ce titre.
Tout petit peu, peut-être, pour donner envie. Voilà. C'est vrai que c'est compliqué d'évoquer le récit, parce qu'il est, c'est un récit fleuve, c'est un récit choral avec énormément de personnages. Ouais. On peut juste dire que ça commence comme un récit policier, qui serait pas très loin d'un récit façon Les Sopranos, sur fond de mafia nantaise. Mmh. Et que petit à petit, par petites touches, on se rend compte qu'en fait le récit va un peu au-delà du genre policier pour aller vers une histoire de robot géant quand même. On peut peut-être lâcher le morceau.
Bon alors, c'est un robot géant, ça y est, voilà. Mais alors, un robot géant qui n'appartient pas à notre époque. Et d'ailleurs, vous jouez avec les époques, Fabien Velman, puisqu'il s'agit, comme vous le dites si bien, d'une uchronie. Qu'est-ce qu'une uchronie ?
Une uchronie, c'est un
peu de culture sur France Culture.
C'est un genre de science-fiction qui consiste à jouer le jeu du « et si ». L'uchronie la plus connue, c'est celle de « et si Hitler avait gagné la Deuxième Guerre mondiale ». Et ensuite, on continue l'histoire en disant, voilà, il se serait peut-être passé ça, ça, ça. Donc c'est un exercice intellectuel parce qu'on, personne ne sait très exactement ce qui se serait passé en changeant tel et tel moment de l'histoire. Mais c'est un exercice intellectuel qui permet souvent de voir sous un jour nouveau les événements réels, historiques, d'où son intérêt en fiction.
Et là, en l'occurrence, pour Le Dernier Atlas, il s'agit d'avancer ou de reculer la guerre d'Algérie, comme on dit.
On la retarde.
On retarde l'indépendance.
Alors pour expliquer vite fait, l'Uchronie en question, on imagine qu'un ingénieur algérien a survécu à la Première Guerre mondiale où il s'était engagé en tant que bon Français, et en fait que grâce à cet ingénieur, un nouveau type de robot, les Atlas, ont commencé à être créés, et qu'un de ces robots, l'Atlas de classe 1, qui ressemblait plutôt à une espèce de gros tank, a trouvé du pétrole en Algérie à peu près 15 ans plus tôt qu'on ne l'a trouvé. Parce qu'en, dans la réalité, on l'a trouvé en 56. Et d'imaginer qu'on trouve d'énormes stocks de pétrole en Algérie en 56, quand les événements ont déjà commencé, ça pose déjà une question sur comment on aurait pu gérer les choses si on l'avait su avant. Dans le cas présent, on imagine que De Gaulle voit bien l'intérêt de conserver cette colonie, cède un petit peu plus de droits et fait en sorte qu'on puisse conserver le plus longtemps possible la colonie. Et puis le choix qu'on a eu avec Gwen, c'est d'imaginer quand même que le sens de l'histoire serait allé vers l'indépendance, et que donc à un moment ou un autre, dans notre uchronie en 68, au moment de ces révoltes étudiantes...
Et pas en 62 donc ?
Non, et pas en 62. Il y a 62 qui était la fin de la vraie guerre d'Algérie. Là, en 68 commence cette guerre d'Algérie uchronique, dans lequel des atlas de classe 4, ceux qui ressemblent à des géants de fer, un peu comme un Goldorak, on pourrait dire, ou comme dans Le Roi et l'Oiseau, le robot géant de ce très très beau dessin animé, ont servi aussi, malheureusement, à des faits militaires. Donc on va utiliser les robots géants comme en réalité un symbole de ce qu'était une certaine France qui se voulait toute puissante, qui se voulait capable de reconstruire la France, ou au contraire de défendre ses intérêts de manière militaire, qui fonctionne au nucléaire, parce que De Gaulle prônait le nucléaire. Et dans notre uchronie, malheureusement, un de ces atlas, comme on les appelle, va provoquer un incident nucléaire pendant la guerre d'Algérie, ce qui va d'ailleurs marquer la fin des événements. Et puis, on retombe un peu sur nos pieds, on fait en sorte que les choses se passent bon an mal an, à peu près, comme dans notre histoire. Le tout, une fois de plus...
Parce qu'il y a eu effectivement des essais nucléaires en Algérie.
C'est ça, ça on le change pas. Le vrai but pour moi d'avoir utilisé l'Uchronie ici, c'était de pouvoir aborder les événements d'Algérie sans hystérie de part et d'autre. Parce que souvent, dès qu'on parle de ce sujet, il y a des crispations. Mon père a fait la guerre d'Algérie en tant que militaire. Je vois ce que peut donner une conversation de fin d'année à Noël, quand dans la famille on aborde ce genre de sujet. Ça devient souvent une sorte de querelle de chiffres, de combien il y a eu de gens massacrés dans tel et tel endroit, à qui la faute, qui rend la discussion à peu près impossible. Or, le problème de ça, c'est que du coup, il y a une forme d'invisibilité de ces événements, Or, mon impression depuis pas mal d'années, c'est que tant qu'on n'aura pas fait une espèce de deuil symbolique du fait qu'on a été en guerre et que cette guerre, c'était peut-être une forme de, en réalité, de guerre civile, puisque on prétendait que l'Algérie était française, donc c'était l'équivalent d'une guerre civile. À ce moment-là, il faut essayer d'en parler, parce que si on n'en parle pas, on est dans un angle mort qui, à mon avis, explique en partie l'islamophobie qu'on voit actuellement en France. À force de dire comme si de rien n'était, oui, il y a eu les événements ou la guerre d'Algérie. Et puis, on passe ça très très rapidement dans les cours d'histoire au lycée ou plus tard. À mon avis, on passe à côté de quelque chose qui serait un vrai sujet que, à la limite, les Américains ont mieux traité quand ils ont parlé de la guerre du Vietnam.
Alors ça, c'est l'origine même du dernier Atlas. Mais sinon, quand on lit la bande dessinée, ça reste une bande dessinée d'aventure.
Tout à fait. Parce que pour moi, le problème de vouloir aborder un thème à tout crin, c'est qu'on prêche souvent les convertis. Des gens qui veulent lire quelque chose sur le sujet en question. Or, mon but, qui est partagé par Gwen, c'est d'abord de divertir les gens, de leur tendre la main, d'où l'intérêt d'un robot géant. C'est quand même plus fun d'avoir une histoire de robot géant versus une menace étonnante qui apparaît dans le parc de Tassili, je n'en dirai pas beaucoup plus. On est dans du genre, on sent que ça va être plutôt intéressant, qu'en plus il y a du polar, donc il y a des gens qui se tirent dessus, il y a des poursuites en voiture, vous le disiez. Et une fois qu'on a posé ça, et qu'on a eu cette politesse vis-à-vis des lecteurs et des lectrices, on peut essaimer deux, trois petites interrogations. Même pas des thèses ou quoi que ce soit, c'est simplement de dire, au fait, est-ce que vous saviez que...
Mieux, Fabien, vous laissez tout le monde dans une ambiguïté assez incroyable, c'est ça qui rend cette bande dessinée très intéressante. On va juste parler du personnage principal. Il est français, le personnage principal, mais il est d'origine algérienne. Il va aller en Algérie, mais en tant que français.
Exactement.
Pour la première fois. Il est beau, mais il est pas jeune. Non mais, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous avez décidé, au lieu de cocher les cases, d'essayer de trouver d'autres cases qui soient des antithèses au portrait type d'un héros de bande dessinée.
Mais surtout dans une histoire de robot géant, on a en tête quelque chose qui va être souvent une somme de clichés, mais comme le disait Hitchcock, parfois plutôt que de se battre contre les clichés, vaut mieux complètement y aller. Et puis les distordre, ce qu'il a très très bien fait dans de nombreux de ses films. Dans le cas présent, effectivement, Ismaël Taïeb, le héros, il y a une scène qui est importante pour moi à plusieurs titres. Il doit à un moment donné, parce qu'il y a une affaire qui l'oblige à aller en Algérie pour retrouver un caïd qui est vraiment un salopard, qui s'appelle Le Goff. Il doit aller là-bas et son patron lui dit « Depuis quand t'es pas retourné en Algérie ?» Et Ismaël dit « Je ne suis jamais allé en Algérie, je suis né en France. » Et ça a un écho personnel parce que quand j'ai été invité au Festival d'Alger...
De bande dessinée.
Quand on me demandait quand est-ce que j'allais aller là-bas, je disais souvent « Je retourne en Algérie », comme un lapsus. Alors qu'en fait, j'y avais jamais été, mais c'était tellement présent dans l'histoire familiale, le fait que mon père y avait été, que inconsciemment, j'employais ce mot « J'y retourne ». Et cette espèce de flou, cette schizophrénie qu'on peut parfois avoir quand on est entre deux rives... Je l'ai énormément ressenti avec des jeunes que j'ai rencontrés là-bas. Des personnes qui me disaient, je ne sais pas exactement si je me sens français ou algérien. Pourtant, qui étaient des personnes qui vivaient en Algérie. Cette schizophrénie, c'est une des thématiques que j'ai envie d'aborder, parce que Ismaël, pour moi, c'est quelqu'un qui a été rejeté en tant que personne issue de l'immigration quand il était enfant. C'est pour ça qu'il n'a pas pu être jeune employé à bord d'un Atlas. C'était son rêve d'enfant. Il voulait à tout prix. Il y a un côté très Moby Dick dans ce récit finalement. C'est comme un jeune mousse qui aurait voulu monter à bord d'un bateau. Enfin, il voulait monter à bord des Atlas. Et puis la vie en a décidé autrement. Il a été rejeté. Il a subi des ratonnades, des choses comme ça. Et puis il allait du mauvais côté. Et donc en fait, après, il devient délinquant, ce qui pourrait être extrêmement casse-gueule aussi dans ma façon d'aborder ça. Mais c'est un personnage qui est sans cesse avec des sortes de double fond, qui est toujours ambigu, qui à un moment donné va être sympathique, l'instant d'après qui est affreux, qui juste après devient héroïque. Et du coup, on est dans de l'humain.
Et on se retrouve à la fin de ce premier tome, quelque part en Inde, j'en dis pas plus. On pourrait terminer peut-être sur l'influence des séries, sur votre manière d'aborder le récit en bande dessinée avec le dernier Atlas et en compagnie de Gwen de Bonneval, d'Hervé Tancrel au dessin et de Fred Blanchard en tant qu'expert conseiller.
En robot géant. Donc c'est vrai que Gwen de Bonneval, qui est mon co-scénariste sur ce récit, donc c'est 3x200 pages, donc heureusement qu'il est là pour m'aider à le faire. Hervé Tancrel, le dessinateur principal, et Fred Blanchard qui l'aide pour les designs et le storyboard, et Laurence Croix pour la couleur. Effectivement, on est très inspiré de ce qui s'est fait en série télé, bon, en particulier américaine bien sûr, dans le sens où on voulait que chaque chapitre soit comme un épisode et qu'on ait envie de lire la suite. Qui plus est, le gros intérêt qu'on voit à ces séries, c'est que ce sont des récits qui permettent d'aborder un type de narration de manière chorale, avec plein de personnages, donc ça permet une espèce de narration fleuve, qui permet aussi du coup d'aborder des thématiques très 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 diverses, du fait qu'on a beaucoup de personnages. Il y a une journaliste, Françoise Alfort, qui va s'intéresser à la radioactivité, à l'histoire de la guerre d'Algérie.
Qui est très courageuse, c'est le mot que l'on puisse dire.
Qui est extrêmement courageuse. Il y a aussi des petits délinquants, des grands délinquants, mais parce que ça nous permettait d'aborder ce qu'est l'économie actuellement, c'est-à-dire une économie qui se veut finalement la plus propre possible. Et puis quand on creuse un peu, on se rend compte que la majorité des grands courants économiques sont basés sur de l'argent sale. On essaie de prendre comme en acupuncture, on met des petites aiguilles ça et là pour avoir un récit le plus vaste possible. Il fallait pour ça qu'on donne envie aux gens de nous suivre. Et le meilleur modèle, c'était la série, c'était les cliffhangers de fin d'épisode, c'était de donner envie de lire la suite, de mettre du mystère. Et d'où l'intérêt de cette très grosse pagination. Il fallait que l'éditeur nous suive dans le cas présent. Dupuis a accepté un livre quand même de 200 pages pour 25 euros. Fondamentalement, c'est pas bien cher pour ce que c'est.
Que je recommande vivement. Le dernier atlas, c'est bien sûr chez Dupuis. Merci beaucoup Fabien Hellmann d'être passé ce matin.
Merci à vous.